Bonsoir et bienvenue dans cette émission. D'abord, nous présentons nos excuses pour ces retards avec lesquels nous venons de commencer cette émission. Le Conseil d'État s'est prononcé lundi 5 février contre la requête introduite par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde cherchant à permettre à certains élus de gérer les affaires courantes en attendant l'installation du nouveau gouvernement. La plus haute juridiction de l'ordre administratif en RDC précise que tout choix en faveur d'un nouveau mandat électif entraîne automatiquement et définitivement la cessation des fonctions ou mandats actuels à l'exception du président de la République. D'après cette institution, la dite interdiction vise à éviter la confusion des rôles, le dédoublement des paiements aux dépens du trésor public, à prévenir les conflits d'intérêts et à maintenir l'équilibre des pouvoirs énoncés dans la Constitution et d'autres lois de la République. Que pensez-vous de cet arrêt du Conseil d'État relatif au cumul des fonctions et des mandats? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons dans cette émission Maître Soudi Kimputu Alimasi, il est avocat, il est expert en décentralisation et aussi analyste politique. Et bonsoir Maître Soudi Kimputu Alimasi.
Bonsoir.
Jean-Claude Tilumba, il est professeur et député national et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union Sacrée. Il est initiateur et gestionnaire du regroupement politique 2A bar TDC affilié à l'UDPS. Bonsoir professeur Jean-Claude Tilumba.
Bonsoir cher Guy.
Et Frédéric Amani, il est chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi. Il est expert en questions de sécurité, défense et de maintien de la paix de l'Institut Thalès d'Afrique basé à Dakar au Sénégal. Bonsoir Frédéric Amani.
Bonsoir Monsieur Guy, bonsoir aux co-débatteurs ainsi qu'aux auditeurs de Radio Capi.
Bienvenue à tous et une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à dec@radiookapi.net.
Nous l'avons dit, le Conseil d'État s'est prononcé lundi 5 février contre la requête introduite par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde cherchant à permettre à certains élus de gérer les affaires courantes en attendant l'installation du nouveau gouvernement. Les détails avec Gas Amzati.
La plus haute juridiction de l'ordre administratif en RDC précise que tout choix en faveur d'un nouveau mandat électif entraîne automatiquement et définitivement la cessation des fonctions ou mandats actuels, à l'exception du président de la République. Le Conseil d'État note qu'à partir du moment où les responsables publics visés par l'article 77 de la loi électorale ont opéré leur choix en faveur de leur nouveau mandat électif, sur les fondements de l'article 78 de cette même loi électorale, ces choix emportent pour effet immédiat la cessation automatique et définitive de leurs fonctions ou mandats actuels, la validation de leur mandat par les assemblées parlementaires, faisant naître dans leur chef tous les droits et toutes les obligations attachées à la fonction parlementaire. Avec ce nouvel arrêt du Conseil d'État, le gouvernement devrait être amputé d'environ 28 membres, ce qui repose l'urgence de mettre en place un nouveau gouvernement pour ne pas bloquer le fonctionnement des institutions.
Merci à vous, Grâce Amzati, Jean-Claude Tilumbay. Et on va commencer avec vous, hein. C'est vous l'unique politique, n'est-ce pas, dans cette émission et apparemment la question concerne beaucoup plus les politiques. Vous êtes professeur et député national et cadre de l'IDPS, parti membre de l'Union Sacrée. Vous êtes initiateur et gestionnaire du regroupement politique 2A bar TDC affilié à l'IDPS. Et comment vous réagissez à cette décision du Conseil d'État, professeur Jean-Claude Tilumbay?
Bon, d'abord, le Conseil ne fait qu'insister. Je sais que à l'époque du président Ndoye et notre arrêt du Conseil d'État avait déjà précisé que le cumul de mandat ou l'application cumulée du mandat de député et de membre de l'exécutif était incompatible. Et si le Conseil y revient, bien évidemment, c'est parce que il y a eu cette demande du Premier ministre de vérifier si c'était possible que l'on soit en même temps ministre dans une république et député. Je crois que la question ne se poserait plus à partir du moment que le Conseil avait déjà répondu par un arrêt de principe. Ensuite, il y a ici question de dire que le principe fondamental à la source de séparation des pouvoirs ne permettait nullement pas qu'une personne siège à l'Assemblée nationale et qu'en même temps que cette personne continue de prendre des actes, y compris des actes de disposition qui relèvent de l'ordre de l'exécutif. Je pense que le Conseil n'a fait que rappeler. Et puis, il y a un point de motivation. Je n'ai pas lu la requête du Premier ministre. Sûrement qu'elle est motivée par le besoin d'expédier les affaires courantes pour rassurer ou assurer la continuité de l'État. Mais c'est pour ça que l'administration est faite, en effet. Les ministères ont en leur sein de services publics, plus précisément des administrations dirigées par des secrétaires généraux qui jouent le rôle de colonne vertébrale de la République et qui devraient normalement, à partir du moment que un ministre de la République s'est soumis à la compétition électorale, il ne devrait plus avoir de neutralité nécessaire pour continuer d'engager la République pour autant que lui-même est déjà cela. Mais malheureusement, nos lois n'ont pas suffisamment précisé cette question. Mais la question d'incompatibilité, en effet, en droit administratif, n'est pas que de l'ordre de la légalité. Elle est aussi de l'ordre de la moralité. Comment l'on devrait être en même temps en train de jouer le rôle de contrôleur du gouvernement et en même temps en train d'assumer celui d'exécutant de l'ordre de l'État et des charges publiques qui sont censées être contrôlées par vous-même. Je pense que le Conseil d'État a dit le droit, il a confirmé sa jurisprudence qui désormais sera considérée comme constante pour que l'on prenne absolument conscience que lorsque on s'engage sur la voie électorale et qu'on décide de faire le métier de législateur et de contrôleur de l'action de l'exécutif, on doit se débarrasser des charges publiques qui vous mettent dans cette condition bien évidemment d'incompatibilité.
Oui, professeur, si les textes des lois sont clairs, hein, et c'est tout que vous avez évoqué, n'est-ce pas, cette jurisprudence, n'est-ce pas, par rapport à l'arrêt qui avait été rendu à l'époque du professeur Vundouaoui, et qu'est-ce qui peut, à votre avis, expliquer les motivations du Premier ministre alors qu'on sait qu'il y a cet arrêt? Et je rappelle que vous n'êtes pas son porte-parole, mais qu'est-ce qui peut avoir expliqué, n'est-ce pas, les raisons qui l'ont poussé à saisir le Conseil d'État afin de permettre à ce que les personnes déclarées comme étant élues continuent de gérer les affaires courantes?
Vous savez que lorsqu'on aime son pays et qu'on l'aime tant, il y a toujours cette tentation de penser qu'on est l'unique personne à mieux faire. Et ça, moi, ça ne me surprend pas. Ça préoccupe parfois tout le monde. On est souvent inquiet de laisser son poste aux gens dont on n'est pas sûr, surtout lorsqu'on est convaincu d'aimer tellement son pays. C'est pas nouveau. À cette époque, je me souviens qu'il y a eu des requêtes de même type de gens qui pensaient qu'il ne fallait pas laisser la République en errance. Mais je pense qu'il n'y a pas mieux gestionnaire de la chose commune que l'administration publique. Je ne pense même pas que l'on devrait se soucier de penser qui devrait faire, qui devrait expédier les affaires courantes, d'autant plus que l'administration est là pour ça. Nous l'avons vu, on peut même prendre le modèle de l'Assemblée nationale. À partir du moment qu'elle a bouclé sa première session, et l'Assemblée s'est dissoute de plein droit, et que l'on a attendu l'élection, ce n'était pas pour que le président de l'Assemblée nationale fasse remise, reprise avec le nouveau président. Et ils ont laissé cette charge à l'administration publique qui est la colonne vertébrale de l'État. Et c'est l'administration qui s'est chargée de recevoir les nouveaux députés et d'installer le nouveau bureau de l'Assemblée. Je crois que c'est ça le rôle, c'est la raison qui justifie bien évidemment que l'on ait l'administration dans un État. Nous connaissons des pays comme la Belgique qui par moment ont passé 16 mois sans gouvernement et ont efficacement fonctionné. Je crois que nous devrions comprendre que désormais la puissance et la force d'un État, la stabilité d'un État devra dépendre de ce que l'on fasse confiance en l'administration publique et que l'on ne s'inquiète pas lorsqu'on veut quitter un ministère de ce que le pays va rester dans la rue, parce que auprès de chaque ministère, et même du Premier ministre, il y a une administration solidement ancrée qui n'est plus en souffrance. pour que l'on pense que absolument il faut qu'une personne qui mille les fonctions pour que le pays marche.
Oui, et donc avec cela, on peut comprendre pourquoi certains ministres semblaient hésiter, n'est-ce pas, ou ont hésité de pouvoir déposer leur démission ou de pouvoir faire un choix. Et parce que là, on sent que même les premiers d'entre eux, donc les premiers ministres, ne voulaient pas que c'est les membres du gouvernement qui sont concernés puissent quitter le gouvernement afin d'aller siéger au Parlement.
Cher Guy, je ne pense même pas qu'il s'agisse d'un problème de choix. Moi, je pense que à partir du moment que l'on est ministre et que l'on a choisi de se présenter comme candidat, à partir de ce moment-là, logiquement, l'on devrait s'assurer que c'était mandat terminé et qu'on est à autre chose. Maintenant que ce n'est pas clairement inscrit dans notre législation et que on arrive quand même à être ministre, à être candidat plutôt et en même temps ministre, à finir la campagne et à revenir, continuer de poser des actes, y compris des dispositions, comme on l'a vu, parce qu'il y a de ces ministres qui venaient de signer des arrêtés qui vont survivre à ce mandat, ce qui n'est pas commode. Par exemple, la nomination de mandataires publics, de directeurs généraux de certains établissements ou des services publics, de directeurs généraux dans le domaine, par exemple, d'enseignement supérieur des recteurs d'université. Ça, c'est des actes de disposition qui survivent à ce moment-là. Les ministres ne devraient plus être fondés à le faire.
Oui, malheureusement, l'émission
ne le précise pas, mais j'ai dit, c'est une question de constance jurisprudentielle et puis de morale politique que l'on devrait, en fait, observer. Mais parce que la loi ne l'interdit pas, nous sommes dans le domaine généraliste de croire que tout ce qui n'est pas interdit est permis. J'ai dit que le domaine d'incompatibilité n'est pas que de l'ordre légal, il est aussi de l'ordre moral pour la sécurité du bien public. Je crois qu'il faut que, à partir du moment qu'on est déjà député et qu'on a franchi les portes de l'hémicycle pour y poser les actes de législation, on devrait s'abstenir même de retourner dans son cabinet pour tenter d'attendre faire la remise reprise. On doit la faire avec le secrétaire général pour attendre qu'il cède. Ensuite, le flambeau au ministre qui vient, parce que c'est extrêmement grave que l'on s'imagine qu'en même temps on est député, on est ministre, et que l'on pense que nous pouvons nous attendre d'une quelconque production d'un tel ministre qui se sait parti. C'est des choses, je crois, que à la prochaine devrait faire l'objet d'une législation claire pour que
formelle.
On ne soit plus enclin à revenir voilà. Devant le juge pour l'embêter, parce que moi je pensais que l'arrêt rendu en son temps par le Conseil d'État dirigé par le professeur Vondau avait cristallisé un principe. Je pensais que c'était un arrêt de principe pour que l'on se voit non obligé d'aller embêter le Conseil.
Merci, professeur.
En ayant conscience qu'il s'est déjà prononcé. Mais malheureusement, nous sommes encore tentés par cela. Ça ne me semble pas vraiment commode.
Voilà, c'est pas commode, mais il faut quand même reconnaître que tout le monde a un choix à faire, n'est-ce pas? On a été élu député alors qu'on était membre du gouvernement. Et on vous donne la possibilité de faire un choix. Soit vous allez au Parlement, soit vous cédez votre siège au Parlement et à ce moment-là, vous restez au gouvernement. N'est-ce pas qu'il y a cette possibilité-là?
D'abord, pourquoi on devrait attendre ce choix? Si on s'est fait candidat député, lorsqu'on est ministre et qu'on s'est fait candidat député,
c'est vous politique qui devez nous expliquer tout ça. Hein. C'est vous député politique qui devez nous expliquer ça.
Ne décide de vous ramener au gouvernement, mais à partir du moment qu'on est déjà ministre,
merci, oui,
et qu'on a choisi de se faire candidat, il n'y a plus de choix à faire. On a décidé d'être parlementaire.
Merci, professeur.
Donc, dire aujourd'hui que on participe aux travaux parlementaires le matin. Et on bénéficie des honneurs de la République comme ministre sur l'entrée et le passage vers le palais du peuple. On rentre, on est ministre,
on a compris,
avec des ministres parlementaires,
on a compris.
Bénéficie des privilèges ministres. Je ne vois pas que l'argent ou les décisions, mais je pense que c'est une attitude quelque peu insaisissable et incohérente.
Merci, Maître Soudi Kimpout. Bon, je pense que si vous étiez au gouvernement, vous ne tiendrez pas le même langage, professeur Chilumbaï.
Écoute, cher Guy, moi, j'ai été, avant d'être élu député provincial, j'ai dirigé un établissement public d'enseignement supérieur, l'ISDR Tshubashe à Kamanga. Avant de me présenter comme candidat, j'ai écrit ma démission en bonne et due forme. Et lorsque je suis revenu des élections, j'étais élu député provincial, je n'ai plus jamais posé mon pied dans cet établissement-là parce que j'avais procédé à la remise de prise, bien que ma démission n'avait pas été accepté. Je crois que ça relève de l'ordre de la morale. Ça n'a pas besoin de faire l'objet des lois et des dispositions constitutionnelles.
Merci,
ça relève
professeur.
De l'ordre de la morale.
Merci, professeur. Maître Soudi Kimputo-Limassi, avocat, vous êtes expert en décentralisation et analyste politique. Pour vous, c'est quoi l'interprétation à donner à cet arrêt du Conseil d'État?
Merci beaucoup. Je voudrais d'abord saluer le professeur Tshilumbayi et l'autre co-débatteur,
Frédéric Amani. Frédéric Amani.
Effectivement, c'est Frédéric. Je pense que cette requête pour un pays comme le nôtre, qui a connu le début de démocratie au lendemain de l'accession à l'indépendance, avec un régime souvent fortement parlementaire, est une honte pour la République. Parce que ceux qui ont introduit cette requête ont une double incompatibilité. Et je vais demander à ce que vous m'accordiez un peu de temps pour que nous puissions expliquer à ceux qui nous suivent, parce que l'émission ici a aussi un rôle pédagogique. Il faudra savoir que cette obligation de choix puise son fondement du principe de séparation des pouvoirs. Et lorsque vous visitez quelques classiques, parce que cette question n'est pas seulement une question de juristes, même ceux qui ont fait les sciences politiques, ils peuvent mieux l'expliquer. Locke et Montesquieu les disaient déjà vers le 15e et le 16e siècle, que la théorie de la séparation des pouvoirs visait déjà à cette époque-là à séparer les différentes fonctions de l'État, afin de limiter l'arbitraire et d'empêcher les abus liés à l'exercice des missions souveraines. De ce fait, la fonction d'édicter les règles et celle de contrôle d'exécution de ces règles édictées constituait déjà à l'époque la fonction législative. C'est ça le rôle aujourd'hui de notre Assemblée nationale et de notre Sénat. Et la fonction d'exécution de ces règles relevait déjà à cette époque de la fonction exécutive. C'est la fonction du gouvernement aujourd'hui. Et enfin, la fonction des règlements des litiges, constituée depuis cette période-là, 15e, 16e siècle, je le rappelle, la fonction juridictionnelle. C'est la fonction des cours des tribunaux et des parquets préfets, ces juridictions aujourd'hui dans notre pays. Ces trois fonctions ne peuvent être confondues que seulement dans un régime autocratique ou des monarchies absolues. Donc si nos soi-disant élites, ceux qui représentent le gouvernement de la République, qui sont censés donner l'exemple de l'application de la Constitution, et je vais le démontrer un peu plus bas, essayent d'introduire ce genre de requêtes, c'est peut-être chercher à confondre le rôle de ces fonctions qui sont clairement séparées par le constituant.
Oui, Maître Soudi, vous parlez.
Comme le nôtre.
Oui, Maître Soudi, on a compris, vous parlez du principe, n'est-ce pas, des séparations de pouvoir. Mais lorsque vous parcourez les articles, n'est-ce pas, qui ont été mis en exergue par les conseils d'État, les articles 100, 138, 146 et 147 de la Constitution, on a l'impression que les législateurs n'ont jamais, n'est-ce pas, formellement interdit les cumuls des mandats et des fonctions dans notre Constitution.
Non.
Est-ce que la personne qui a pris l'initiative de saisir les conseils d'État ne s'est pas basée sur ces faits-là à partir du moment où les choses ne sont pas clairement dites dans la Constitution?
Non, les choses sont clairement dites dans la Constitution. Et même moi, d'ailleurs, contrairement à ce que le Conseil d'État a donné, moi, je vais donner d'autres articles de la Constitution. Laissez-moi évoluer parce que les gens doivent comprendre pourquoi c'est impossible que celui qui a été élu, qui est au gouvernement, puisse à la fois être député et ministre dans le gouvernement. C'est-à-dire, il est à la fois membre d'un organe délibérant ou d'une assemblée est membre, donc un pouvoir législatif est membre d'un pouvoir exécutif. Ça ne peut pas se faire. Hein, c'est comme ça que je tenais à ce que les gens comprennent dès le début que il s'agit ici d'une question de séparation de pouvoir et que les animateurs ne peuvent pas jouer les deux rôles à la fois.
C'est mais lorsque vous lisez la requête du député ministre, il parle d'une courte période, c'est-à-dire en attendant la mise en place ou l'installation du nouveau gouvernement. Une courte période.
C'est un appétit, ça s'appelle tout simplement appétit glouton. On a déjà pris le goût de gérer et d'avoir tout ce qui en découle. Même une seule seconde, on ne peut pas le permettre. Dès qu'on on est arrivé à la validation des mandats, et les articles 77, 78 de la loi électorale sont clairs là-dessus, il n'y a pas de courte et de longue durée. Dès que le mandat est prêt à être validé, vous devez faire les choix pour ne pas créer un antécédent juridique.
Oui, vous
êtes... vous mettre en position d'exercer les deux missions.
Vous êtes... Maître Soudi, vous êtes vous-même juriste, hein, et c'est vous qui, pour défendre, n'est-ce pas, certaines causes, vous tenez compte de la lettre et de l'esprit. Est-ce que la personne qui a initié cette requête n'a pas tenu compte de ça, la lettre et l'esprit?
C'est-à-dire que si j'étais conseiller du Premier ministre ou d'un des membres du gouvernement ou de tous ces groupes de nos concitoyens qui ont introduit cela, j'aurais conseillé qu'on n'introduise aucune requête parce que c'est une honte, comme je l'ai dit au début. Parce que les articles, je prends l'article par exemple 97, 97 de la Constitution. Cet article est clair. On dit que dès que vous êtes membre du gouvernement, cette fonction est incompatible avec l'exercice de tout mandat électif. Vous voyez?
Et ces gens-là. Vous parlez de quel article, Maître Soudi? Vous parlez de quel article?
Je parle de l'article 97 de la Constitution.
97.
Et cet article 97 de la Constitution est en adéquation avec, je crois, l'article 108 de la même Constitution, qui interdit à tout député, à tout celui qui est élu député national ou provincial, d'exercer les fonctions de membre du gouvernement.
Mais vous avez raison, Maître Soudi, vous avez raison d'évoquer cet article 97 qui est formel, n'est-ce pas?
Oui.
Mais vous pensez que dans les cabinets du Premier ministre, il n'y a pas de juristes qui savent que cet article existe dans la Constitution?
Mais s'il y en a, et qui n'aient pas conseillé leur chef à ne pas introduire cette requête honteuse, c'est qu'ils ont failli à leur mission. Ici, nous parlons des textes, nous parlons, et puis de quel texte? Nous parlons de la Constitution. J'évoque ici une double incompatibilité pour ces personnes. Voilà le sens même du choix. Parce que si vous êtes membre du gouvernement, il vous est obligatoirement interdit d'être à l'Assemblée.
Merci.
Si vous êtes élu député, il vous est obligatoirement interdit d'être membre du gouvernement.
Merci.
Voilà le sens du choix obligatoire. Donc si on a conseillé à quelqu'un qui a cette double incompatibilité d'aller introduire une requête honteuse comme celle-là, c'est une défaillance totale en matière juridique et nous les stigmatisons tout haut ici. S'il y a des doctrinaires parmi eux, c'est très malheureux pour l'avenir de notre science juridique.
Merci Maître Soudi. Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Vous êtes expert en questions de sécurité, défense et de maintien de la paix de l'Institut Thalès d'Afrique basé à Dakar au Sénégal. Que pensez-vous, vous également, de cet arrêt du Conseil d'État relatif au cumul des fonctions et des mandats?
Merci pour la parole et l'invitation, M. Guy. Alors, voici ce que je pense de cet arrêt. Je crois que, à tout seigneur, tout honneur, je voudrais ici saluer le Conseil d'État pour ce sursaut patriotique qui vient de manifester. Parce que je crois que lors de la prestation du serment du président Félix pour son second mandat, il a reconnu qu'il y a eu des erreurs. Et il voudrait bien que ces erreurs du passé ne soient pas répétées. Et parmi, n'est-ce pas, les éléments qui pouvaient permettre à ce que les erreurs du passé soient répétées, c'est cette stagnation ou on est dans un attentisme, puisque le Parlement a été, il est dans un processus d'être installé, eh bien, c'est dans ce Parlement où le Premier ministre doit être issu, selon la majorité, pour qu'on constitue un gouvernement. Lequel gouvernement va matérialiser, n'est-ce pas, la vision du chef de l'État. Or, cet arrêt est salutaire dans la mesure où t'empêche les cumuls pour éviter au même député d'être ministre et d'un côté de freiner le Parlement à voter des lois qui doivent aider la République à avancer, mais de l'autre, le ministre qui doit aussi travailler pour matérialiser la vision du chef de l'État aussi bloqué, je pense qu'il y a lieu de saluer cet arrêt. Et je pense, je ne voudrais pas revenir sur ce que le dernier co-débatteur vient de dire, mais je pense que le Premier ministre a un cabinet, il a des collaborateurs, ou bien c'est un ballon d'essai pour voir si le Conseil d'État va effectivement rejeter la requête ou la... Mais ça serait, excusez-moi les termes, ça serait quand même une honte. Ou je pense que la République n'a pas besoin des hommes providentiels. La République a besoin des institutions fortes. Je suis tout à fait d'accord que ces institutions sont mises en place par des hommes, mais le respect des lois, n'est-ce pas, doit être de mise. Un Premier ministre qui a été élu, donc, il a reçu la confiance du peuple pour le représenter, pour prendre le desiderata de ce peuple et, n'est-ce pas, le présenter auprès de l'exécutif. Le même Premier ministre ou le député élu, qui est encore à la fois ministre, je crois que à ce moment-là, on devrait assister à, si vous voulez bien, à une crise d'intérêt où on est jugé parti, on est exécutif et on est encore législateur et ça pouvait poser problème. Donc, cet arrêt est salutaire et je pense ici, c'est le lieu de le souligner, que cet arrêt, à mon avis et au regard de ce qui se passe, dénote, n'est-ce pas, de cette ambition où on veut tout accumuler à soi. Alors qu'il y a des secrétaires généraux qui pouvaient assumer les affaires courantes ou l'intérim, en attendant que les anciens ministres ou premiers ministres puissent siéger, doter le pays des lois, contrôler l'action du gouvernement pour qu'il n'y ait pas de prétexte qu'on a échoué, qu'on n'a pas atteint telle mission parce qu'on a été bloqué par tel cas ou tel obstacle. Et moi, je pense que toutes les parties doivent jouer leur partition pour non seulement aider le président de la République à réussir son mandat, mais pour offrir à cette nation, n'est-ce pas, lui donner le meilleur qu'il mérite par rapport à tout ce qu'il a comme potentialité.
Frédéric Amani. Frédéric Amani. Voilà. Oui, vous soutenez tous hein, les trois personnes qui participent à cette émission, vous soutenez tous cet arrêt du Conseil d'État. Mais je pense qu'il serait hâtif de conclure que le Premier ministre avait eu l'intention, n'est-ce pas, d'encourager la violation de certains principes de la Constitution.
Bien, M. Guy, malheureusement, ni vous ni moi, personne n'est porte-parole du Premier ministre. J'aurais bien voulu, excusez-moi de le dire ainsi, j'aurais bien voulu peut-être débattre avec lui ou avec un membre de son cabinet pour qu'il nous donne, n'est-ce pas, les raisons ou les motivations de cette requête. On a parlé de l'article 97, 97. C'est bien dit. Les fonctions des membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, et de toute activité professionnelle, à l'exception de... On a énuméré quelques exceptions. Mais aussi l'article 108, montre clairement le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandat suivant, membre du gouvernement. Mais, excusez-moi, je n'ai aucune intention de rappeler au Premier ministre ou à tout son cabinet ces éléments qui sont clairement définie dans la Constitution. Moi, je pense que c'était un ballon d'essai où il voulait. Alors, on ne sait pas vraiment les motivations, mais les motivations sont claires. D'un côté, on veut continuer à jouir les privilèges en tant que membre du gouvernement. De l'autre aussi, on veut continuer à jouir les privilèges ou les immunités en tant que député. Pourtant, on a décidé de servir la nation en représentant le peuple à l'hémicycle pour, n'est-ce pas, porter ces desiderata auprès de l'exécutif.
Merci.
Comment voulez-vous qu'un député qui est dans un pouvoir législatif puisse être à la fois aussi dans l'exécutif? Mais c'est incompatible, et je crois que ça ne devrait même pas faire l'objet d'un débat, excusez-moi, mais je crois que cette République, c'est de travailler pour l'intérêt général.
Merci.
Et de travailler pour, n'est-ce pas, permettre à ce que les choses avancent dans le bon sens pour que les Congolais puissent se retrouver et non un groupe de gens au détriment de l'autre. Je crois que de pas rendre service à cette nation.
Merci, on a écouté vos points de vue, on va maintenant écouter les opinions des auditeurs. Professeur Jean-Claude Kinumba, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu, au sud Kivu.
Augustin Tendilongue, je suis à Bukavu de la province du sud Kivu. Je salue vivement cette décision du Conseil d'État, tout en fustigeant la démarche égocentrique du Premier ministre Sama Lukonde. D'où la nécessité au président Fatih de nommer le plus vite possible les prochains chefs du gouvernement pour mettre fin à tous les défis qui guettent le pays actuellement.
Oui, professeur Jean-Claude Tilumbay.
Oui, cher Guy. Je rappelle qu'il n'y a pas carence dans l'État pour que les ministres qui ont déjà leur cœur ailleurs restent gestionnaires de la chose publique. Prenons, ils ont été à l'Assemblée, ils participent aux travaux des commissions, ils valident les mandats de leurs pairs, ils apprécient les dossiers de députés, ils prennent des décisions en fait qui vont rester longtemps en leur qualité de députés. Ils ont touché l'argent à l'Assemblée comme députés. L'incompatibilité a commencé à partir de ce moment-là. Sur la route, ils bénéficient des immunités parlementaires. Ils ont reçu les macarons qui leur confèrent le droit des parlementaires, qu'ils n'avaient pas comme ministre. Comment on peut se permettre une telle énormité? Moi, je n'ai pas compris. Monsieur Koyagalo est devenu premier ministre dans ce pays à des occasions comme ça.
C'était en 2011, hein, lorsque 2011. Le premier ministre Muzito avait choisi d'aller au Parlement.
Et pourquoi on doit chercher à rectifier des choses tellement ancrées dans notre mentalité démocratique? Le Conseil d'État a fait tout simplement preuve de cette indépendance qui a manqué à notre justice pendant plusieurs années. Et que c'est une raison de plus de justifier qu'il a fallu ce qu'il y a à la tête de ce pays pour que les juges se permettent une telle audace de dire non à des hommes aussi puissants comme le Premier ministre et toute cette équipe de ministres qui veulent toucher deux fois de l'argent incompatible de la République. Et c'est très grave.
Merci.
Je pense qu'à ce niveau, il y a des leçons qu'il faut tirer. J'ai vu ça avec le vieux José Makila en 2018. Et les gens n'en ont pas tiré des leçons. On ne pouvait pas quand même aller au point que tout un gouvernement qui a rendu des services loyaux et louables à ce pays puisse finir avec un point ridicule comme on l'a souligné ici. Mais en fait, il est question de dire ici que nos frères devenus députés parce qu'ils ont touché avec nous l'argent en qualité de députés. Le peuple les a payés, le peuple congolais les a déjà payés comme députés. Nous avons reçu l'argent des transports à l'Assemblée. Ils l'ont reçu en cette qualité-là.
Merci, professeur. On a compris.
Ils ne peuvent pas escroquer la République.
Merci. Maître Soudalimassi, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Isangi.
Je m'appelle Jean Kibefonga Malumalu depuis Sangui, province de la Tchopo. La requête du premier ministre Samalou Kondé n'est pas fondée, d'autant plus que la loi suprême a déjà établi les modalités de fonctionnement des institutions politiques en cas d'incompatibilité des gouvernants élus députés nationaux. Par ailleurs, la mesure préconisée peut être opportune puisque l'installation du nouveau gouvernement devrait prendre un peu de temps en comparaison avec les installations du gouvernement précédent. Au regard des crises multisectorielles que le pays traverse, il est logique de voir le président seul parvenir durablement et efficacement à leur résolution. Ainsi donc, le président de la République est dans l'obligation de désigner dans les délais raisonnables les formateurs du gouvernement afin de permettre au pays de fonctionner avec les institutions politiques légitimes et légales.
Maître Soudi Kimpoto Alimasi.
Oui, j'ai comme l'impression que, à force de politiser l'ensemble du fonctionnement des institutions de la République, on oublie certains rôles importants. Et c'est ici les lieux d'interpeller l'opinion nationale et l'élite congolaise. Qu'il y a une classe professionnelle qui est presque dans les oubliettes. C'est l'administration publique. Les chefs des administrations publiques sont des secrétaires généraux. Ils sont les dépositaires de toutes les matières de gestion des institutions en matière de ministères. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez le fonctionnement de ces services, on donne l'impression que ce sont des ministres dans leur cabinet où ils amènent leurs enfants, leurs oncles, ainsi de suite. Ils oublient et ils négligent, et même l'appui du gouvernement au niveau du fonctionnement de ces hauts fonctionnaires est presque minime et insignifiant. Aujourd'hui, ce sont ces chefs des administrations qui peuvent assumer sans complaisance et sans aucun doute la continuité de l'État. Il n'y a pas un vide juridique dans notre pays. Et voilà, les gens se posent beaucoup de questions, le président de la République doit accélérer je ne sais pas quoi pour nommer ceci. Ces gens-là, M. Samalou Kondé et ses amis, doivent tout simplement, s'ils veulent aller à l'Assemblée, qu'ils aillent à l'Assemblée. Les ministères qui n'auront pas de ministres, les secrétaires généraux, sont des hauts fonctionnaires de notre pays dans chaque secteur. Chacun prend la relève pour expédier les affaires courantes. Les affaires courantes en matière administrative et sur le plan des droits, c'est poser des actes qui n'engagent pas l'avenir. Et ces hommes et ces femmes sont capables de poser des actes dans ce sens. Et on fait abstraction à cela, on croit que les ministres sont des super-hommes, le pays leur appartient, ainsi de suite, même s'ils sont dans les incompatibilités, les cours et tribunaux doivent les réhabiliter parce que les autres sont des sous-hommes, alors qu'ils sont compétents et la loi les reconnaît le pouvoir de continuer d'expédier ces affaires courantes. Donc ici, il n'est pas question de tourner en rond, il n'est pas question de temps, il n'est pas question d'un vide juridique, les choses sont tellement claires. Ceux qui ont choisi d'aller à l'Assemblée nationale, qu'ils aillent à l'Assemblée nationale, là où il n'y a pas de ministre pour coordonner, ou s'il n'y a pas d'autres ministres qui peuvent assumer des intérims multiples dans d'autres ministères, les secrétaires généraux peuvent assumer avec compétence ses responsabilités jusqu'à la désignation du nouveau gouvernement selon le calendrier qui est établi.
Merci Frédéric Amani. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Beni au Nord Kivu.
Fabrice Ambili, depuis la ville de Beni, au Nord Kivu. L'article 98 de la Constitution interdit formellement le cumul des fonctions pour les membres du gouvernement, dans le sens où cet article dispose expressis verbis ce qui suit. Les fonctions des membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif. Donc, nous pensons que ça relève vraiment d'une ignominie déboussolante de la part du Premier ministre d'avoir eu le courage d'introduire cette requête devant le Conseil d'État, tout en sachant ce que dit la loi. Donc, nous pensons que les élus doivent faire un choix entre rester au gouvernement fin mandat et d'être à l'hémicycle ou aux assemblées provinciales. Parce que nous estimons que les secrétaires généraux sont là pour expédier les affaires courantes au sein du gouvernement. Juridiquement par là, les membres du gouvernement élus députés nationaux qui vont valider leur mandat au niveau de l'Assemblée nationale doivent tout simplement déposer leur démission. Ceci pourrait être même général si une fois le Premier ministre accepte de siéger à l'Assemblée nationale. Dans ce cas-là, tous lui et son gouvernement devraient être réputés démissionnaires.
Oui, Frédéric Amani.
Bien, merci. Je suis heureux que l'auditeur de Béni soit revenu sur ce que nous avions déjà dit. Donc, c'est rigolo, excusez-moi de le dire ainsi, parce que ça saute aux yeux quand même. Ça saute aux yeux, cette requête du Premier ministre. Pourtant, la loi est claire. Et je crois, lorsque vous suivez la proclamation des résultats de la CENI, on nous a dit qu'il y a eu 43 taux de participation, donc 57 taux d'abstention. Cela montre que la population, d'une manière ou d'une autre, n'a plus confiance ou ne s'intéresse plus à la politique et que, eh ben, bon, on pense que ceux qui entrent en politique, c'est pas, excusez-moi le terme, pas véritablement pour servir le peuple, mais d'abord pour se servir ou pour leurs intérêts. Et je crois que cette requête était sans doute une manière de cumuler, n'est-ce pas, les moyens ou les avantages, et en tant que député et en tant que ministre, mais c'est déplorable. Je crois qu'il est plus que temps aujourd'hui que tous ceux qui vont travailler avec le président Félix, eh bien, l'aide à matérialiser sa vision de ce second mandat pour son honneur, pour l'honneur de la République et pour le bien du pays, en privilégiant, j'insiste, en privilégiant l'intérêt général et non l'intérêt égoïste ou le positionnement de X contre Y. Sinon, c'est décevant et c'est le peuple qui payera malheureusement le prix.
Et merci, nous sommes à la fin de l'émission, on va commencer et à conclure. Et professeur Jean-Claude Tshilumbaï, vous êtes professeur et député national et cadre de l'UDPS, membre de l'Union Sacrée. Vous êtes initiateur et gestionnaire du regroupement politique 2A, bar TDC, affilié à l'UDPS. Après cet arrêt du Conseil d'État, quelle attitude les personnes concernées devraient-elles adopter, notamment les mandataires des entreprises publiques, les membres du gouvernement? C'est quoi l'attitude que ces personnes devraient, n'est-ce pas, adopter?
Le du Congo central, ça c'est un homme responsable. Il est venu,
Vous parlez de qui, professeur? On n'a pas bien suivi.
J'ai dit l'attitude du gouverneur du Congo central, c'est un homme responsable. Il a été élu député, il est venu, il a nettement assumé sa position de gouverneur, il veut finir son mandat. Il a renoncé à son mandat de député. Parce que ici, il ne s'agit pas, comme je l'entends là, d'une question de démission. On démissionne d'une fonction que vous occupez, qui existe. Ici, les amis ont été avec nous à l'Assemblée. Ils ont touché l'argent comme parlementaire, l'argent de transport. Ils ont reçu les macarons des parlementaires pour jouir des immunités parlementaires. Ils n'ont plus besoin de démissionner, ils ne sont plus ministres. À partir du moment qu'ils viennent s'asseoir sur les chaises de l'hémicycle de l'Assemblée et qu'ils vont s'asseoir sur les chaises de ministères, c'est une gravité énorme, c'est impensable.
Merci.
Je crois qu'il y a des choses qui se doivent d'être nettement corrigées dans les retouches des lois, parce qu'on ne peut pas, le matin, on est sur la chaise des députés, le soir, on signe des arrêtés dans le cabinet ministériel, le juge est parti. L'incompatibilité, c'est effectivement cela. Le matin, on est député sur la route, on bénéficie des immunités parlementaires, parce que les ministres n'en ont pas. Le soir, on est ministre, c'est impensable.
Merci.
Crois que c'est une question de moralité publique. Il faut que c'est, moi, je suis très gêné d'entendre que les gens se sont pourvus en justice pour exiger le droit de bénéficier de des droits de cette nature-là absolument incompatible.
Merci. Question de moralité publique, comme vous l'a dit le professeur Jean-Claude Tshilumbaï. Maître Soudi Kimputu Alimasi, avocat, vous êtes expert en décentralisation et analyste politique. Et ceux qui ne vont pas quitter le gouvernement, peut-on dire qu'ils ont choisi de céder leur siège au Parlement?
Oui, effectivement, il y en a qui peuvent le faire parce que les suppléants, ce sont leurs femmes, leurs enfants, leurs neveux, ainsi de suite. Il y en a qui ont préparé ça aussi. Et je pense que la moindre des choses serait, malgré tous ces aspects-là, de respecter la Constitution. Ici, il s'agit de la Constitution. C'est-à-dire que vous êtes élu, vous allez à l'Assemblée si vous voulez être député, ou vous choisissez de rester au gouvernement, vous renoncez à votre mandat, comme ça pour la plupart qui ont mis leurs femmes, leurs cousins, leurs oncles là-bas, ils les remplacent. Mais nous, population, nous voulons tout simplement voir que l'élite qui nous dirige puisse respecter la Constitution et les lois de la République. Donc ils n'ont pas d'autre choix. Ici, il n'est pas question d'aller chez les juges, et j'ai saisi l'occasion pour saluer la pertinence de cette décision, et je crois que la présence d'une femme devant cette cour qui a commis beaucoup de dégâts par le passé, cette haute juridiction administrative, nous tenons à lui jeter des fleurs, Madame la Première Présidente, parce qu'il faut donner maintenant des leçons comme ça, judiciaires, aux acteurs politiques de notre pays qui croient que le fait d'appartenir dans une famille politique, c'est l'occasion pour se faire octroyer des décisions de justice qui puissent les amener à violer la Constitution.
Merci.
Voilà tout ce que nous pouvons dire.
Merci Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Vous êtes expert en questions de sécurité, défense et de maintien de la paix de l'Institut Thalès d'Afrique basé à Dakar au Sénégal. Et quelles pourraient être, à votre avis, les conséquences si, après cet arrêt du Conseil d'État, personne ne se prononce en faveur d'un mandat ou d'une fonction donnée?
Les conséquences, c'est la stagnation, c'est le retard de la matérialisation du vision du président de la République, et le peuple risque encore de lui prendre au mot pour dire « Vous n'avez pas tenu vos promesses parce qu'il y a eu des retards de la mise en place du gouvernement » de l'installation du Parlement, et on risque, n'est-ce pas, encore de regretter. Mais je tiens à féliciter une fois de plus l'arrêt du Conseil d'État pour avoir dit le droit, et nous invitons aussi, c'est le lieu de le dire, nous invitons les membres de la société civile et les confessions religieuses à être, n'est-ce pas, regardants par rapport à cette législature. Lorsqu'elle ne va pas travailler pour matérialiser leur mission, eh bien, je crois qu'il y a lieu, n'est-ce pas, de les rappeler à la bonne voie pour qu'ils travaillent pour l'intérêt général. J'insiste là-dessus, et l'une des caractéristiques d'un état de droit, c'est la primauté du droit. Donc, respectons les lois de la République, et on va avancer, et on va aller de l'avant, et on va sortir de la misère, parce que lorsque le droit est dit et les lois sont respectées, eh bien, je crois qu'on va avancer.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Professeur Jean-Claude Chilumbay, Maître Soudi Kimputu Alimasi et M. Frédéric Amani. Merci également à toute l'équipe qui m'a accompagné, Kéline Kouté, Mimi Kindou et Jonathan Fanani, Clément Chimanga et Hervé Voka sous la supervision de Martin Seboujangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci encore et bonne suite des programmes sur Radio Capi.